7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.
Aïe, 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 ce son, vous le reconnaissez, celui de Hasdin Ahmed Chaouch, le grand Qahwa. Bonjour Hasdin.
Ça va?
Bah écoute, ça va bien.
Vous m'avez manqué plein de trucs.
Ah bah oui, toi aussi.
Des jours fériés.
Toi, Hachnek, mais grave.
Ah, ça fait plaisir.
On s'est dit, à mon avis.
Toi, Hachnek, j'ai l'impression que c'est un oncle qui me parle.
Toi, Hachnek, ça veut dire que tu nous as manqué.
Moi, je sais bien, mais tu sais, ce mot, il est beau.
Ouais, tu sais, j'ai un arabe niveau scolaire.
Ah ouais.
Non, niveau scolaire, pas parfait.
Non, mais en dialecte.
J'ai appris en vacances au bled.
Tu joues bien.
Ouais, bon, ça va. Comment t'as passé ton week-end?
Eh bien, pas mal. Un anniversaire, la famille.
Ah, bien.
Et en fait, c'est trop marrant parce que je te disais ça hors antenne. Ma fille, elle a 4 ans. Et je lui dis, on va chez ses grands-parents, chez mes parents, faire la rupture du jeûne. Elle dit, c'est génial le ramadan parce que c'est une fête où tu manges le dessert au début. Donc, elle pense que le ramadan, tu manges juste le dessert au début. Elle
sait pas raison. Que y a laisse le jeûne la croire avant. Encore. Voilà. Laisse-la croire. Allez, ce matin avec une invitée que tu vas nous présenter dans quelques instants.
Exactement. On va ouvrir le grand kawa par un kawa brûlant, comme d'habitude, qui sent le ramadan, évidemment. Mais malheureusement, on sera loin de l'odeur appétissante de la bonne shorba ou de la zlebia toute chaude, c'est qui sort de sa friture. Encore une fois, je vais revenir sur une nouvelle charge anti-musulmane, anti-arabe. Et oui, pour mon retour, fallait bien reprendre les fondamentaux, comme on dit. Ensuite, kawa sans filtre exceptionnel. Avec, on va dire, allez, la juriste la plus célèbre de France en ce moment. Celle qui a autant d'adorateurs que de détracteurs. Elle est candidate aux élections européennes. Elle est jeune, elle a 31 ans. En politique, 31 ans, c'est très jeune. À part Gabriel Attal, c'est jeune. Son CV est un cauchemar pour les identitaires d'extrême droite. Déjà, ses origines palestiniennes et puis ses choix de carrière et ses engagements tournés vers le droit d'asile, les réfugiés, agaceux qui pensent que les immigrés vont tuer tout le monde. Et cerise sur la corne de gazelle des fachos, Forbes la classe en 2023 dans les 40 femmes d'extrême qui ont marqué l'année, qui ont fait rayonner la France à l'international. Vous devez être bien énervé. Rima Hassan ou Hassan, comme on veut. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour, oui, très très bien. Merci de votre invitation.
Je vous en prie, n'hésitez pas à parler près du micro. Est-ce que vous êtes kawa ou pas le matin? Je crois que vous prenez toujours un petit camp.
Je prends les deux. Moi, je prends un café et un thé vert tous les matins.
Ah oui.
Oui, les deux.
Vous commencez la journée, vous êtes dans votre temps d'axe. Alors, vous êtes jeune. Eh bien, je vais parler pour commencer de jeune, mais jeune avec un accent circonflexe. Oui, c'était ma vanne. Le ramadan qui touche à sa fin est encore une fois instrumentalisé par nos amis qui ne portent pas les musulmans dans leur cœur. Juste avant l'Aïd, j'ai choisi de vous parler de ceux qui ont choisi de s'en prendre à nos joueurs de foot. Fallait s'y attendre. Un milieu dans lequel des noirs et des arabes excellent et enchaînent les trophées ne pouvait rester hors de portée des mal intentionnés. On y a eu le droit encore cette année, c'est la nouvelle tendance. Doit-on empêcher les joueurs de foot faire le ramadan? Cette question, vous l'avez déjà entendue. Elle vous a sûrement choqué. Elle m'a choqué. Je vais décrypter en quoi elle est dangereuse pour toute la société française. 1. Elle replace le religieux au cœur du débat public et le sort de la sphère intime. La très grande majorité des musulmans exercent leur foi sans en parler à tout le monde, toute la journée. Alors, il n'y a rien de plus gênant qu'un collègue de travail qui vous demande devant tout le monde « Je t'ai pas vu à la cantine, t'as-tu fait le ramadan ?» Ouais, dans le milieu du sport, c'est la même chose. Pour les pros, mais également en milieu amateur, moi, quand je jouais, ça ne posait pas de problème. Le seul critère restait celui de la forme du moment. Nombreux joueurs de foot, Karim Benzema en tête, sont meilleurs lorsqu'ils font le jeûne, peut-être parce qu'ils trouvent des ressources mentales et spirituelles insoupçonnées. D'autres peuvent être en méforme. C'est en réalité un sujet sportif assez classique. Par exemple, on ne compte pas le nombre de verres d'alcool de chaque joueur dans la semaine, ses heures nocturnes passées devant sa console et FIFA, et on lui demande pas tout ce qu'il a mangé ou fumé les jours précédents un match. 2. Cette question polémique fait des joueurs de foot, très souvent issus de quartiers populaires, des ouvriers abrutis, sujets à la raison et la clairvoyance des vrais gens éclairés et patrons de foot. Ces vieux monsieur en costard qui connaissent mieux le sport que ceux qui le font. Les champions dans le domaine sont les dirigeants de la Fédération Française de Football. Monsieur Diallo a choisi de poursuivre l'héritage du très progressiste Noël Le Graët. Belle initiative, pas du tout discriminante. La FFF interdit les pauses pour rompre le jeûne, ça va loin. Une interdiction comme pour pénaliser ceux qui voudraient être joueurs de foot et musulmans. Et puis parfois, les dirigeants du foot trouvent des relais zélés. Pardon Kim, mais c'est un Nantais, un Antoine Camboiré. Hein, ça te pique un peu.
Ça me pique.
Il a communiqué sur le sujet, il s'en est même expliqué sur RMC. Alors pas dans une émission foot, mais dans l'émission Les Grandes Gueules, que l'on peut aisément qualifier un peu de réac. Et évidemment, nous prenons un peu pour des jambons. Il explique imposer le même régime de sévérité avec les joueurs qui font le carême le jour de match. Si tu jeûnes, tu restes chez toi. Évidemment, le nom du joueur qui a préféré faire le jeûne, il a été révélé dans la presse. Ça aussi, c'est très très classe. 3. L'extrême droite, sans même lancer directement la polémique, impose un débat qui n'avait pas lieu d'être il y a quelques années. Le ramadan, coutume ou rituel religieux, c'est selon, a toujours été bien reçu dans toute la société française en fait. Son image est même liée à des reportages positifs à la télé, parfois même un peu cliché. La famille qui partage un bon repas et même les bienfaits sanitaires du jeûne sont souvent mis en exergue. Mais depuis quelques années, l'extrême droite tente de diaboliser ce grand moment familial. Le ramadan ne serait plus qu'un pilier de l'islam, mais un outil des islamistes pour remplacer les vrais Français. Attention, cette fois-ci, je veux bien paraphraser la formule du dernier footeur français qui a décroché un ballon d'or, que je vais ériger en philosophe. Les dirigeants du foot ont peut-être cette fois-ci cédé à une partie raciste de la France. Vous avez un petit avis ou pas sur cette polémique, Rima ?
Oui, je pense que c'est important parce que le foot, c'est quand même vecteur de beaucoup de choses pour beaucoup de jeunes. On voit voilà Kylian Mbappé ou Karim Benzema à quel point ils sont suivis justement et guident d'une certaine manière toute une jeunesse. Donc avoir des stigmatisations, des polémiques politiques qui viennent s'immiscer comme ça dans quelque chose qui doit justement nous unir. Est profondément problématique et ça s'inscrit, je pense, dans une continuité qui est assez dangereuse et qui correspond un peu à la montée aussi de l'extrême droite en France et plus largement en Europe.
On a l'impression que sur des sujets même anodins, fédérateurs, qui habituellement rassemblent, on va toujours réussir à trouver, c'est un angle un peu identitaire, enfin je dis identitaire sympa, raciste ou xénophobe.
Oui, totalement. C'est, encore une fois, ça s'inscrit dans un climat de stigmatisation à l'endroit des concitoyens musulmans de France. Et il faut les dénoncer à notre échelle. Mais ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, on le fait dans des espaces qui sont des espaces justement de vecteurs de fraternité, de mobilisation, de rassemblement. Enfin, je veux dire, le foot, c'est un symbole pour énormément de personnes et j'en fais aussi partie. Mmh. Et donc, c'est profondément dommageable.
On va dire, on va jouer au jeu des présentations. Moi, je vous connais un peu, mais il y a peut-être des gens qui vous connaissent un peu moins. Je veux avoir un autoportrait assez rapide parce que évidemment votre Wikipédia il est assez succinct. Et puis on va pas attendre tout de Wiki. Et sinon dans la presse sur Internet, soit on trouve donc des gens amoureux qui parlent de vous, soit des gens comme l'animateur Arthur qui souhaite vous réduire au silence à jamais. Je vais donc à la source. Mais qui êtes-vous, Rima Hassan? C'est pas
qui
évident
je
de
suis,
se présenter.
Oui, c'est ça. Mais non, mais j'ai un parcours qui est assez complexe. Je suis donc une juriste française. J'aime me définir d'origine palestinienne, précisément parce que je n'ai pas la nationalité palestinienne. Et c'est toute la condition aussi de mon statut de réfugiée palestinienne apatride. Et je suis arrivée en France à 10 ans. Et je me suis inscrite autant que possible dans la défense des droits des personnes dites exilées et puis bien sûr aussi sur la question des droits de l'homme dans laquelle est imbriquée la question palestinienne.
Ça fait un beau portrait pour commencer la politique.
Et d'ailleurs, sur le Wikipédia, c'est assez intéressant. Si vous allez dessus, il y a une petite note disant qu'on ne peut plus le modifier ou faire des suggestions de modification parce qu'il y a une bataille éditoriale.
Donc le jour où...
C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent rajouter, je pense, des aspects négatifs, et puis il y a ceux qui veulent garder...
Comment on fait le jour, Inch'Allah, l'État palestinien est reconnu et qu'on vous attribuera une nationalité palestinienne. On pourra changer ce jour-là.
Oui,
j'espère. Alors, pour faire écho à ma chronique de tout à l'heure, on vous l'avait dit, on sent que n'importe quel sujet, même le plus anodin, est identitaire. Et plus globalement, on sent que la gauche, elle est prise au piège. L'extrême droite mène la danse et vous n'avez pas de réponse efficace. Quand je dis vous êtes aujourd'hui une porte-parole de la gauche, en tout cas des LFI. Mmh. Vous êtes impuissant ou inaudible. Pourquoi? Vous avez perdu la guerre idéologique, la gauche?
Je pense pas que ça soit... Il y a une question de responsabilité collective sur la montée de l'extrême droite. Comme je le disais, c'est pas seulement un phénomène français. Je veux dire, c'est on le voit à l'échelle européenne. Je crois que l'extrême droite est critée à plus de 30% des intentions de vote pour le moment. Et je crois que plus que jamais, la bataille qu'on mène à gauche, et notamment au sein de la France insoumise, parce qu'il y a... aussi des trahisions, enfin je veux dire, on en reviendra peut-être dans la gauche, mais dans cette grande famille de la gauche.
Vous dites le mot trahison à un journaliste, évidemment, je vais aller dans la fissure.
Non, mais on mène une bataille qui est extrêmement importante, qui est une bataille par ailleurs qui est sur le fond. Mmh. Et je pense que l'adhésion à cette extrême droite, elle s'inscrit dans une réelle souffrance de nombreux Français.
Est-ce que vous n'avez pas perdu le dialogue avec les classes populaires ? Parce que quand on regarde les meetings du RN, certes, on voit des vieux militants, des anciens. Moi, j'ai beaucoup fait les meetings, je reconnais le type de militants, mais il y a aussi des gens qui sentent peut-être non considérés. Qui vont vers le RN comme on allait vers le Parti communiste à l'époque, et on sent ça de plus en plus, voire comme on allait vers le Parti socialiste, attention.
Non, mais ce qui est important de dire, c'est que l'adhésion au RN elle est profondément creuse, c'est-à-dire que quand on voit le travail qui est fait ou les propositions qui sont celles du RN, c'est du vide. Je rappelle que Jordan Bardella n'a produit aucun rapport au Parlement européen et il s'est positionné que quelques amendements en 5 ans. Donc je pense que l'adhésion au RN, elle repose surtout d'abord sur une réelle souffrance, une colère. Et forcément, c'est plus dur, si vous voulez, de convaincre sur des arguments, sur un réel projet politique. Et ça met forcément plus de temps et ça mobilise plus d'efforts et plus de mobilisation et plus d'engagement que de récupérer, si vous voulez, juste des voix sur une rhétorique politique qui consiste à instrumentaliser les souffrances, à instrumentaliser les différences, à diviser la France. Et c'est ce que fait malheureusement les RN, mais c'est là où la bataille qu'on mène. Ils le font malheureusement, ils le font bien, et c'est là où notre présence aussi dans ce climat politique est extrêmement importante pour contrecarrer cette montée de l'extrême droite qui est dangereuse pour nous toutes et tous, parce que le RN ne sauvera pas les plus précaires de notre pays.
Ben ça, on poursuit après la pub parce que c'est passionnant, mais on va pas parler que du RN, il y a plein d'autres sujets. Hein. De retour avec mon invité Rima Hassan, candidate LFI pour les européennes. Alors vous êtes un peu j'ai beaucoup côtoyé Jean-Luc Mélenchon, mais le nouveau punching ball anti-Mélenchon, c'est un honneur. Vous êtes fatigué, vous vous dites, qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans? La politique française, on aime taper sur des icônes.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai fait l'objet de nombreuses menaces et de pressions avant même que je m'engage.
Ah oui,
oui, bien sûr, c'était aussi l'objet de mon départ en Jordanie. Je suis partie en Jordanie après avoir reçu des menaces de mort, de viol, mon adresse a été divulguée, etc. J'ai tout fait un peu de ce climat et je suis partie pour un projet d'écriture. Et j'ai hésité effectivement à revenir en France dans ce climat-là. Et en même temps, il y a un moment où je pense que chacun est renvoyé à ses responsabilités, à ce qu'il peut faire, au levier d'action dont il peut se saisir. Je suis plutôt combative. Mais j'ai conscience qu'il faut prendre des coups. Ouais.
Pourquoi les filles, je crois qu'à moi, les écolos, j'ai cru lire que les écolos, vous avez un peu, dragué en politique.
Oui,
c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Vous avez préféré le rouge plutôt que le vert.
Non, mais j'ai participé aux journées d'été des deux mouvements.
Vous avez regardé le menu, vous avez choisi LFI.
Je suis intervenue sur la question de la migration et sur la question palestinienne. D'accord. Cet été pour ces deux mouvements. Et ensuite, effectivement, la proposition de LFI dans le contexte actuel me paraissait quand même beaucoup plus en adéquation avec mes propres positions. Et je crois qu'à un moment donné, dans un engagement politique, il y a le souci d'une cohérence. Voilà.
Alors justement, vos positions, vos prises de position sur Gaza vous ont souvent été reprochées. Alors, on va essayer d'être pédago. Quelle est votre position sur le conflit, sur ce qui se passe actuellement à Gaza ?
C'est une position de paix. Par contre, je suis extrêmement exigeante et sur la nécessité de travailler à la justice. Et ce que je reproche précisément aux politiques, c'est d'avoir, pendant très longtemps, nous avoir un peu endormis avec une berceuse de la paix, sans jamais travailler concrètement à faire avancer la justice, notamment pour le peuple palestinien, qui est victime d'une dépossession, d'une colonisation, d'une occupation, et ce, sous différentes formes, depuis 75 ans.
Vous rêvez, je crois, d'une cohabitation, c'est ça ?
Voilà, moi, j'ai toujours dit que mon idéal, c'est une cohabitation totale, c'est-à-dire que...
Un seul État, c'est-à-dire ?
Un État binational, c'est-à-dire
d'accord.
que...
Donc c'est pas la coexistence de deux États, c'est pas pareil, c'est ça ?
Non, c'est la coexistence, en gros, d'Israéliens et de Palestiniens, mais c'est important de le dire, là, je suis aussi candidate et diplomatiquement, politiquement, la voie de la paix aujourd'hui s'inscrit dans la reconnaissance d'un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Il faut plutôt voir, je pense, la question de la cohabitation comme un idéal qui peut nous servir de boussole et qui peut peut-être se concrétiser, mais qui est entre les mains des Palestiniens israéliens, ce qui nous relève aujourd'hui de notre responsabilité politique et de notre marge de notre action politique, c'est de faire reconnaître l'État palestinien. Si vous voulez, c'est en deux temps. Pour moi, il y a une urgence aujourd'hui à reconnaître l'État palestinien parce que l'existence même du Palestinien comme sujet politique est remis en question. On parle de génocide, de nettoyage ethnique sur les deux territoires où les Palestiniens vivent. Donc il est extrêmement important de protéger cette identité palestinienne, cette identité politique et cette survie politique du peuple palestinien. Et ensuite, moi, ce que je souhaite, et c'est là où c'est assez marrant parce qu'on m'accuse de ne pas promouvoir la paix, je souhaite que les Israéliens et les Palestiniens puissent complètement cohabiter.
Vous pensez que c'est possible après le 7 octobre et après la riposte sans retenue de l'armée israélienne, si on peut appeler ça riposte ?
Je crois qu'on n'a pas le choix, si ce n'est que d'espérer. Et il y a une question de génération. En Afrique du Sud, je pense qu'on a traversé des périodes où on a pu se dire que c'était inconcevable que les Blancs et les Noirs se mélangent ou coexistent ou cohabitent. Aujourd'hui,
vous rêvez d'un destin, oui, à la suite. La sud-africaine.
Alors, après, il y a différentes. Encore une fois, c'est des configurations qui peuvent être différentes parce que contrairement à l'Afrique du Sud, il n'est pas question que de la ségrégation. Elle repose pas sur la couleur de la peau. Elle repose sur une existence, une survie de l'identité de l'un et de l'autre, et une identité qui est politique. Donc, c'est vrai que la logique de, enfin, la nécessité de reconnaître les spécificités d'identité et de communauté politique des uns et des autres, et c'est un élément qui complexifie davantage la question israélo-palestinienne par rapport au cas sud-africain. Mais encore une fois, il y a un idéal, oui, de cohabitation. Mais c'est vrai que pour le moment, nous devons avancer sur la reconnaissance de l'État palestinien.
Vos prises de position sur Gaza, elles ont souvent été attaquées ou caricaturées, c'est vous qui allez nous le dire. Et notamment, vous avez eu comme, on va dire, ennemi médiatique, l'animateur Arthur, qui ne fait pas visiblement que le vendredi pour faire marrer les gens. Et parfois, il s'attaque aussi à des personnalités politiques. C'est quoi, là, cette brouille que vous avez avec Arthur ? Donc, il vous attaque sur les réseaux. Après justement votre apparition dans le classement Forbes.
Oui, alors j'ai été classée par Forbes, effectivement. Le classement est sorti dans le magazine de août 2023 et la cérémonie de remise des trophées devait se tenir en mars. Donc ils ont commencé effectivement à communiquer sur la tenue de cette cérémonie que j'avais moi-même relayée sur mes réseaux. Et à ce moment-là, je me rends compte que Arthur me tague dans une story, tague le directeur de Forbes, tague Forbes en disant que pour être classé dans ce magazine, en fait, il suffit de faire comme Rima. Et là, je cite, il dit que je suis une antisémite patentée et que je soutiens le Hamas. Donc, c'est pas une brouille, c'est de la diffamation. Ce que j'ai dit, c'est que moi j'ai fait du droit, donc c'est extrêmement important de me saisir de cette boussole. Je suis insultée pour mes positions, je suis caricaturée.
Vous avez engagé une procédure judiciaire ?
J'ai déposé plainte.
Ah oui, vous avez déposé plainte contre
Bien
Arthur,
sûr,
d'accord.
J'ai déposé plainte et je suis déterminée à.
Vous savez, s'il a été après une plainte, normalement il y a audition devant le service de police. Ou devant le procureur
Pas encore.
Pas encore ?
Non, on a passé déjà la première étape, c'est-à-dire d'avoir un constat d'huissier sur la story, puisque c'est une story qui est restée que 24 heures, ce n'est pas un poste qu'on peut encore consulter, donc il a fallu d'abord faire constater cette story par un huissier, et ensuite, effectivement, il sera entendu, et puis on ira jusqu'à un procès.
À suivre, comme on dit.
À suivre.
Allez, on vous sort de cette thématique, parce qu'on vous informe un peu souvent dans ce sujet. Or, une de vos expertises, c'est la question des exilés, des réfugiés, c'est la question migratoire en général. La gauche peut-elle avoir une position réaliste sur les questions migratoires ? Parfois, on dit, vous êtes un peu naïf, un peu utopiste, face à une droite pragmatique, voire à une extrême droite outrancière. Est-ce que la gauche peut avoir une position réaliste, pragmatique ?
Bien sûr, et elle doit surtout avoir une position qui est humaniste. Je crois que quand on regarde l'état du monde, la migration est une donnée sur laquelle on doit prendre notre jouer notre rôle et avoir une position qui consiste à prendre notre part en matière de solidarité internationale. Donc je rappelle que la première réalité de migration, c'est une réalité de migration sud-sud. On n'est pas envahi, contrairement à ce qu'on croit. La crise.
Quand on écoute Bardella, Zemmour, Marine Le Pen, c'est l'invasion.
C'est ce que je vous disais au début, c'est que c'est tellement plus simple pour ces partis de récupérer les souffrances, les peurs, les inquiétudes de tout un électorat plutôt que d'avoir un vrai travail pédagogique, de convaincre sur le fond, d'avoir des propositions qui émanent quand même d'un travail, je veux dire, au sein d'un mouvement. Donc c'est une lutte politique, c'est une lutte de narratif. Moi, je crois que la question de la migration, c'est une lutte de narratif, en fait, en réalité. Hein. Je pense que vous prenez un Français moyen, vous lui demandez concrètement ce qui se joue sur les questions de migration, il y a peu de personnes qui sont réellement informées. Et c'est là où, aussi, il y a un déficit politique et médiatique sur le sujet, alors que c'est un sujet de société.
Enfin, donc, la loi immigration, elle a dû vous faire bondir. Enfin, quand Emmanuel Macron tente d'injecter la préférence nationale, notamment concernant les prestations sociales, vous, ça a dû, vous, en tant qu'experte et juriste de ces questions-là.
Bien sûr, et par ailleurs, en tant que personne concernée, moi je suis arrivée en France à 10 ans, avec ma famille, on ne parlait pas un mot de français, et je dis souvent que la question de l'intégration qui est souvent opposée à ces personnes exilées, c'est pas quelque chose qui se dicte, c'est quelque chose qui se vit avec des réalités humaines qui sont différentes d'une famille à une autre, avec des parcours de vie qui sont plus ou moins traumatiques, et on a une rigidité en fait sur la question de la migration qui consiste à mettre d'abord sur la table les enjeux d'assimilation, ce qui est pour moi un échec absolu, parce que d'aborder en fait la question de ce modèle de société à travers la question de l'assimilation est profondément problématique, c'est-à-dire que
la dilution en fait l'assimilation.
C'est ça, mais ça ne marche pas. Je veux dire, je ne connais pas une personne qui vient qui a migré, qui a eu à migrer et qui se voit renoncer à tout ce que, ou alors si elle le fait, c'est pas quelque chose qui doit être dicté, c'est-à-dire qu'on peut choisir de vivre ses identités ou une identité ou une transformation de son identité,
mais sans que la loi ne l'impose.
De manière consentie, effectivement. Et puis, c'est encore une fois des dimensions qui sont extrêmement intimes et propres à chacun. Donc, oui, c'est un échec. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'on est plutôt face à un échec de la politique d'accueil. Mmh. Et non pas.
C'est pas un paradis de migrants, un paradis de migrants, la France, comme la scène l'extrême droite. Est-ce que la France est un paradis de migrants ?
Non, absolument pas. Et puis, c'est important de rappeler que les migrants, comme on les appelle.
Quand je dis on n'a pas eu, mais il y avait des guillemets dans ma.
Voilà, déjà, il y a des spécificités dans ce qu'on appelle les migrants. Il y a des personnes, selon les statuts qu'ils ont, qui ont des droits qui sont protégés et consacrés. Et il n'y a pas d'appel d'air. Donc, contrairement à ce qu'on peut dire, non, les migrants ne choisissent pas la France en se disant qu'ils vont être particulièrement bien traités. On quitte toujours son pays parce qu'on est contraint de le faire.
C'est une question que j'avais déjà posée à Najat Vallaud-Belkacem, ex-ministre de l'Éducation nationale, ex-ministre socialiste. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable, un arabe président ou une femme présidente en France ?
Pour le moment, ni l'un ni l'autre. Parce que je suis femme et arabe.
Les deux, je vous dis, c'est le combo.
Je suis femme et arabe, donc je vois les deux. Je vois les deux blocages.
On est quand même plus proche de Marine Le Pen présidente que de. D'ailleurs, j'ai même pas de nom. Peut-être Rachida Dati qui est en première ligne, mais.
Non, oui, non, mais il y a une. Oui, il y a un risque là actuellement, effectivement, que le RN passe avec en tête de ce mouvement Marine Le Pen. Mais je pense pas que ça soit parce que voilà, soit femme, c'est encore une fois c'est parce qu'il y a un programme qui malheureusement a pénétré dans la société, qui un discours qui s'est normalisé. Moi je me souviens de l'époque où Jean-Marie Le Pen était face à Chirac, j'ai le souvenir que ça a été vécu comme une catastrophe. Vraiment, enfin je veux dire, mais même pas
bien
que
sûr.
Pour les personnes dites immigrées dans mon entourage, dans l'entourage de ma famille.
Donc là ça passe crème, comme on dit.
Exactement. Et moi c'est vraiment ça qui m'inquiète, c'est de mettre en perspective la perception qu'on avait de l'extrême droite et celle qu'on en a aujourd'hui, au point de se dire qu'effectivement Marine Le Pen peut être totalement présidentiable et être à la tête de notre pays.
Question rapide sur l'attitude offensive d'Emmanuel Macron à l'égard de la guerre en Ukraine. Est-ce que Poutine vous fait peur ou est-ce que l'attitude de Macron offensive vous fait peur ?
Les deux, après pas pour les mêmes raisons. Je pense que Poutine, c'est important de le rappeler, il a une dimension impérialiste dans son offensive dans l'agression qu'il mène aujourd'hui contre les Ukrainiens et contre l'Ukraine. Donc c'est important de le rappeler que nous ne sommes pas les amis de Poutine, que
parce
nous soutenons
que
les opposants.
A parfois eu
mais non, mais c'est des caricatures,
voilà.
C'est important.
On lui a parfois dit ou qu'on a qualifié une espèce d'indulgence à l'égard du pouvoir russe.
Moi je l'ai dit en introduction de cette interview, je méprise beaucoup la parole paresse intellectuelle. Quand on veut caricaturer les propos de LFI, il faut citer ces propos. Donc, moi, je vous défie de trouver des propos de dirigeants de la France insoumise qui consistent à valider ou soutenir le régime de Poutine. Ça, c'est plutôt l'école de l'extrême droite. Je rappelle qu'on a des archives de Marine Le Pen en train de serrer la main à Poutine et que, par ailleurs, il y a des enjeux de financement de ce parti par le régime russe. Donc, non, nous ne sommes pas les amis de Poutine. Nous soutenons, par ailleurs, ses opposants. Nous les accueillons. Mais Poutine, effectivement, est un... effraie, je pense, beaucoup de personnes parce qu'on a du mal à, le saisir dans ses ambitions sur les pays frontaliers de la Russie. Et Macron, il fait aussi peur, mais il fait peur par sa bêtise. C'est-à-dire qu'on a discuté de ce que Macron allait trop loin dans ses déclarations. Je pense surtout qu'il va nulle part. Quand il aborde la question d'envoyer des troupes en Ukraine et qu'il est désavoué par tous les dirigeants européens, même par les États-Unis, tous les alliés en réalité, tous nos alliés sur le sujet, il ne fait que servir précisément le régime de Poutine.
Là, il y a la petite musique de fin, le petit tapis qui est arrivé. J'ai une dernière question, Kim. Il me regarde parce qu'évidemment, il y a un planning à respecter. Un bon score pour les Européennes, c'est quoi? C'est battre le PS et Glucksmann?
On n'est pas sur cette...
Donne-nous un chiffre.
Non,
on aime bien
non justement.
On joue au pari sportif avec Kim. On peut faire le pari politique. C'est une nouvelle rubrique qu'on aimerait lancer là, pour faire un peu d'argent.
Je vous laisse cet exercice-là. Nous, notre responsabilité, si vous voulez, c'est pas de se fixer un chiffre en particulier. C'est de mener la bataille jusqu'au bout.
Il faut avoir un objectif quand même.
On a deux mois. Je crois que la politique, c'est aussi un levier d'espoir pour beaucoup. Je veux dire, si on s'engage en politique sans espérer justement parfois tout renverser sur une élection, avoir une dynamique qui consiste à convaincre un maximum de personnes, on s'engage
pas. Vous avez cherché un appart à Bruxelles, ça y est ou pas?
Pas encore, mais j'ai bon espoir, donc je commence à regarder les annonces.
Merci à vous, Rina Sen, merci pour cette invitation.
7h-10h, la matinale avec Kim sur Beurre FM.